Chapitre 22. Monsieur de Nucingen à l'œuvre. La veille, avant de se coucher, le tout-puissant banquier avait donné ses ordres à son valet de chambre qui, dès 7 heures, introduisait le fameux Louchard, le plus habile des gardes du commerce, dans un petit salon où vint le baron en robe de chambre et en pantoufles.
Vous vous êtes moqué de moi,
dit-il en réponse aux salutations du garde.
Ça ne pouvait pas être autrement, monsieur le baron. Je tiens à ma charge, et j'ai eu l'honneur de vous dire que je ne pouvais pas me mêler d'une affaire étrangère à mes fonctions. Que vous ai-je promis? De vous mettre en relation avec celui de nos agents qui m'a paru le plus capable de vous servir.
Mais monsieur le baron connaît les démarcations qui existent entre les gens de différents métiers. Quand on bâtit une maison, on ne fait pas faire à un menuisier ce qui regarde le serrurier. Eh bien, il y a 2 polices, la police politique, la police judiciaire. Jamais les agents de la police judiciaire ne se mêlent de police politique, et vice-versa. Si vous vous adressiez au chef de la police politique, il lui faudrait une autorisation du ministre pour s'occuper de votre affaire, et vous n'oseriez pas l'expliquer au directeur général de la police du royaume. Un agent qui ferait de la police pour son compte perdrait sa place. Or, la police judiciaire est tout aussi circonspecte que la police politique. Ainsi, personne au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture ne marche que dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt de la justice. S'agit-il d'un complot ou d'un crime? Eh, mon Dieu, les chefs vont être à vos ordres. Mais comprenez donc, monsieur le baron, qu'ils ont d'autres choses à fouetter que de s'occuper des 50 000 amourettes de Paris. Quant à nous autres, nous ne devons nous mêler que de l'arrestation des débiteurs. Et dès qu'il s'agit d'autre chose, nous nous exposons énormément dans le cas où nous troublerions la tranquillité de qui que ce soit. Je vous ai envoyé un de mes gens, mais en vous disant que je n'en répondais pas. Vous lui avez dit de vous trouver une femme dans Paris. Contenson vous a carotté un billet de 1 000 sans seulement se déranger. Autant valait chercher une aiguille dans la rivière que de chercher dans Paris une femme soupçonnée d'aller au bois de Vincennes et dont le signalement ressemblait à celui de toutes les jolies femmes de Paris.
Contenson, entre parenthèses Contenson, dit le baron, ne pouvait-il pas me dire la vérité au lieu de me carotter un pilette de 1 000 francs?
Écoutez, monsieur le baron, dit Louchard, voulez-vous me donner 1 000 écus? Je vais vous vendre un conseil.
« Faut-il 1 000 écus le conseil ?» demanda Nucingen.
« Je ne me laisse pas attraper, monsieur le baron, » répondit Louchard. « Vous êtes amoureux. Vous voulez découvrir l'objet de votre passion. Vous en séchez comme une laitue sans eau. » « Il est venu chez vous hier, m'a dit votre valet de chambre, 2 médecins qui vous trouvent en danger. Moi seul puis vous mettre entre les mains d'un homme habile. Et que diable si votre vie ne valait pas 1 000 écus ?»
« Dites-moi le nom de cet homme habile et gondez sur ma générosité !»
Louchard prit son chapeau, salua, s'en alla.
« Diable Tom !» s'écria Nucingen. « Fenez ! Dénez !»«
Prenez garde, dit Louchard avant de prendre l'argent, que je vous vends purement et simplement un renseignement. Je vous donnerai le nom, l'adresse du seul homme capable de vous servir. » Mais c'est un maître.
Va te faire viche, s'écria Nucingen. Il n'y a que le nom de Rothschild qui faille 1 000 écus, et encore quand il est signé au pas d'un pilette. J'offre 1 000 francs.
Louchard, petit finaud, qui n'avait pu traiter d'aucune charge d'avoué, de notaire, d'huissier, ni d'agréé, guigna le baron d'une manière significative.
Pour vous, c'est 1 000 écus ou rien.
« Vous les reprendrez en 2 secondes à la bourse, » lui dit-il.
« J'offre 1 000 francs, » répéta le baron.
« Vous marchanderiez une mine d'or, » dit Louchard en saluant et se retirant.
« J'aurai la tresse, pire une pilette des 105 francs, »
s'écria le baron, qui dit à son valet de chambre de lui envoyer son secrétaire.
Turcaret n'existe plus. Aujourd'hui, le plus grand, comme le plus petit banquier, déploie son astuce dans les moindres choses. Il marchande les arts, la bienfaisance, l'amour, il marchanderait au pape une absolution. Ainsi, en écoutant parler Louchard, Nucingen avait rapidement pensé que Contenson, étant le bras droit du garde du commerce, devait savoir l'adresse de ce maître en espionnage. Contenson lâcherait pour 500 francs ce que Louchard voulait vendre 1000 écus. Cette rapide combinaison prouve énergiquement que si le cœur de cet homme était envahi par l'amour, la tête restait encore celle d'un loup-cervier.
« Allez, fis même Ménessier !» dit le baron à son secrétaire. « Guégondanson, l'espion te lichard le carte de tes commerces, mais allez, en cabriolette, bien vite, et amenez-le, incontinent, j'attends, vous passerez par la porte d'Ichartin. Voici la clève. Car il est utile que personne ne voie cet homme-là chez moi. Vous l'introduirez dans la petite pavillon du jardin. Tâchez de faire ma commission avec intelligence. »
On vint parler d'affaires à Nucingen. Mais il attendait Contenson. Il rêvait d'Esther. Il se disait qu'avant peu de temps, il reverrait la femme à laquelle il avait dû des émotions inespérées. Et il renvoya tout le monde avec des paroles vagues, avec des promesses à double sens. Contenson lui paraissait l'être le plus important de Paris. Il regardait à tout moment dans son jardin. Enfin, après avoir donné l'ordre de fermer sa porte, il se fit servir son déjeuner dans le pavillon qui se trouvait à l'un des angles de son jardin. Dans les bureaux, la conduite, les hésitations du plus madré, du plus clairvoyant, du plus politique des banquiers de Paris paraissaient inexplicables.
« Qu'a donc le patron ?» disait un agent de change à l'un des premiers commis.
« On ne sait pas. Il paraît que sa santé donne des inquiétudes. Hier, Madame la baronne a réuni les docteurs Desplein et Bianchon. Un jour, des étrangers voulurent voir Newton dans un moment où il était occupé à médicamenter un de ses chiens, nommé Beauty, qui lui perdit, comme on sait, un immense travail, et à laquelle, Beauty était une chienne, il ne dit pas autre chose que « Ah, Beauty, tu ne sais pas ce que tu viens de détruire !» Les étrangers s'en allèrent en respectant les travaux du grand homme. Dans toutes les existences grandioses, on trouve une petite chienne Beauty. Quand le maréchal de Richelieu vint saluer Louis XV après la prise de Mahon, un des plus grands faits d'armes du XVIIIe siècle, le roi lui dit « Vous savez la grande nouvelle ? Ce pauvre Lansmatt est mort. » Lansmatt était un concierge, au fait des intrigues du roi. Jamais les banquiers de Paris ne surent les obligations qu'ils avaient à Contenson. Cet espion fut cause que Nucingen laissa conclure une affaire immense, où sa part était faite et qu'il leur abandonna. Tous les jours, le loup-cervier pouvait viser une fortune, avec l'artillerie de la spéculation, tandis que l'homme était aux ordres du bonheur.